Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 28 février. Le verdict est tombé dans l'affaire du tragique accident de la montée de Choulan dans le 5e arrondissement. La direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité, la préfecture du Rhône, envisage de mettre fin à l'hébergement d'urgence de plusieurs familles. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Le retour des terrasses saisonnières sur stationnement. Redonner une chance à ceux que la maladie a éloigné du monde du travail, c'est l'objectif de l'ANIAC, un programme qui accompagne depuis 2017 les personnes fragilisées, notamment après le cancer. Reportage complet dans cette édition. Et puis la prochaine Biennale d'art contemporain de Lyon aura lieu en 2026 et c'est l'Australienne Catherine Nichols qui a été choisie pour piloter cette 18e édition.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le verdict est donc tombé dans l'affaire du tragique accident de la montée de Choulan. Le 16 juin 2021, un camion de 18 tonnes avait fauché un lycéen de 15 ans à proximité de l'établissement Don Bosco. Après une audience émouvante, le chauffeur, un Stéphanois de 53 ans, a été reconnu coupable d'homicide involontaire et de violation des règles de sécurité. Il a été condamné à 30 mois de prison, dont 18 avec sursis. Les 12 mois de prison ferme seront effectués sous bracelet électronique. Son permis de conduire est également annulé. Avec interdiction de le repasser pendant un an, une peine plus lourde que les réquisitions du parquet qui avait demandé 2 ans de prison, dont un avec sursis. La direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité et la préfecture du Rhône envisagent de mettre fin à l'hébergement d'urgence de plusieurs familles. Cette décision, dénoncée par la Fédération du Rhône du PCF, concernerait initialement les foyers Adoma, Doulin-Pierre-Bénite et de Vaux-en-Velin, contrairement aux informations initiales du Parti communiste qui mentionnait également Mézieux et Villefranche. La préfecture justifie en tout cas cette mesure par la nécessité de désengorger le dispositif d'hébergement d'urgence, saturé par une durée moyenne de séjour de 44 mois et par le retour à des critères de vulnérabilité plus stricts. La préfecture souhaite ainsi libérer des places pour d'autres personnes en attente en réévaluant la situation de 72 personnes au total, 27 à Oulin et 45 à Vaux-en-Velin. Les familles concernées recevront un courrier début mars et disposeront d'un mois pour quitter leur logement. Le Parti communiste critique cette décision, affirmant que la situation des familles n'a pas évolué et que la solution réside dans la création de places d'hébergement supplémentaires et non dans le remplacement des occupants. La préfecture assure qu'elle examinera chaque situation individuellement et proposera des solutions alternatives, telles que l'aide au logement ou au départ volontaire. Les terrasses saisonnières et sur stationnement devraient faire leur retour ce samedi sur l'ensemble de la ville de Lyon et jusqu'à début novembre. Comme l'an passé, les professionnels bénéficient de 3 mois supplémentaires. Les terrasses ouvriront de 7h à minuit les dimanches, lundis et mardis, de 7h à 1h les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Cette nouvelle réglementation, mise en place pour la première fois en 2024, est l'aboutissement d'une réflexion menée par la mairie en collaboration avec l'UMIH, autrement dit l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Les professionnels avaient accueilli cette mesure comme un souffle pour leur activité.
Lyon demain, focus association.
Redonner une chance à ceux que la maladie a éloignés du monde du travail, c'est l'objectif de l'ANIAC, un programme qui accompagne depuis 2017 les personnes fragilisées. Des centaines de personnes ont déjà bénéficié d'un soutien gratuit pour retrouver leur place dans la société, que ce soit en réintégrant leur entreprise ou en se lançant dans une nouvelle voie professionnelle. Et c'est grâce à l'ANIAC l'asso qu'Isabelle a pu reconstruire un projet professionnel après un cancer du sein assez agressif, compliqué par une pneumopathie en réaction à un médicament. Au final, 22 mois d'arrêt de travail, une histoire éprouvante qu'Isabelle a bien voulu nous raconter.
J'étais à l'époque cadre dans une petite PME, multicasquette, pour une petite entreprise pour laquelle j'étais donc responsable administration des ventes, des achats, responsable du personnel, enfin pour, on va dire le lien avec le bureau externe qui gérait le personnel. Donc je suis revenue à temps partiel et ensuite la CPAM, donc qui nous suit de très près, m'a mis en invalidité 1 parce que je n'avais pas récupéré ce fameux épisode de la pneumopathie. Donc j'étais pas complètement guérie et donc j'ai repris ensuite à 70%, ce qui ne convenait pas à mon employeur, et nous sommes partis dans un bras de fer parce qu'il ne voulait pas me garder et que moi j'ai essayé de me battre pour garder mon emploi et pour obtenir au moins de pouvoir rester dans l'entreprise. Donc il m'a fait une proposition de rester en tant qu'assistante pour me reprendre un poste en dessous de mes compétences. Comme je tenais absolument à rester dans l'entreprise, ben, j'ai accepté ce compromis. Donc j'ai fait un avenant à mon contrat. J'ai perdu mon statut cadre pour pouvoir rester dans cette entreprise. Et au retour de mes vacances, après avoir signé ce compromis, mon patron m'a fait savoir qu'il avait réfléchi pendant mes congés et qu'il ne désirait pas me garder, que c'était trop compliqué pour lui. Donc pour moi, c'était la double peine, quoi. Et je suis partie en vrille et je suis partie 18 mois d'arrêt pour dépression. Je n'ai pas du tout encaissé le choc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment le fameux maillon entre le retour à l'emploi, la fin de notre parcours de maladie, le retour à l'emploi, qu'on n'était pas du tout accompagné sur ce volet-là, et que là c'était très grave, parce qu'en fait au final on pouvait retomber très bien, très vite dans une récidive si on était mal accompagné. Pour moi ça a été beaucoup plus douloureux que ce que j'ai vécu pendant la maladie, parce que pendant la maladie on est chouchouté, on est dans un cadre de prise en charge, surtout pour le cancer du sein, où on a beaucoup de soins support, où on a beaucoup d'associations qui nous entourent. Et là, du jour au lendemain, je me suis trouvée complètement dépourvue de tout, sans ressources, sans savoir comment me battre pour garder mon emploi, quoi. Surtout que j'avais cette volonté de reprendre. Donc la difficulté, c'est qu'effectivement, le retour à l'emploi, c'est que, eh bien, on est amenuisé parce qu'on a des pertes de mémoire, parce qu'on a, il faut reprendre au ralenti. Mais les choses peuvent se faire si on est bien accompagné et si chaque parti pris, c'est-à-dire l'employeur, l'employé, met ça en place. Et dans mon cas, il n'y a rien qui a été vraiment mis en place. On a été un peu pris au dépourvu. Enfin, je pense autant mon employeur que moi. Je ne lui en veux pas parce qu'il a essayé d'accuser le coup comme il pouvait. Mais quand même, ça a été très rude pour moi. Et ça aurait pu se passer aussi d'une façon un petit peu plus... un peu différente, quoi.
Redonner espoir et un avenir professionnel à ceux que la maladie a fragilisés, c'est bien la mission de l'association Lagnac. Cela passe par du soutien, de l'accompagnement, des services pour apporter des solutions concrètes et des actions pour que chaque personne retrouve sa place dans le monde du travail et dans la société en général. Pour mieux cerner le fonctionnement de l'ANIAC Lasso, nous avons rencontré sa fondatrice, Sophie Caruso.
L'ANIAC Lasso, c'est une association qui a pour vocation d'accompagner les personnes après un traitement pour maladies chroniques évolutives, le cancer notamment, et accompagner les personnes au rétablissement et au retour au travail quand c'est possible, et dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en santé.
Comment est née cette initiative ? C'est quoi ? C'est une expérience personnelle ?
C'est né à la fois d'un groupe d'experts qui justement travaillent sur les ruptures de carrière et le rebond quand il y a une rupture de carrière, mais aussi d'expériences personnelles de membres fondateurs de l'asso qui ont connu de près la maladie.
Alors quel est le public concerné ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes finalement.
Effectivement, sur ce type de parcours, on a à peu près 85%, 90% de femmes, mais on est en train d'attirer les hommes à nous. Simplement, c'est à la fois parce que le cancer du sein est un cancer qui touche beaucoup les femmes en âge de travailler, et par ailleurs aussi, on a un biais genré, c'est-à-dire que les hommes ont moins l'habitude de demander de l'aide ou de penser qu'ils ont besoin d'aide.
Quelles sont les difficultés alors après la maladie ou pendant la maladie ?
Les difficultés concernant la maladie et le travail, c'est effectivement une interrogation sur ses capacités à retourner au travail au rythme où on exerçait son travail précédemment. C'est aussi des questions sur la représentation de la maladie des collègues qu'on va retrouver. Mais c'est encore aussi une interrogation sur les aspirations qui nous animent après la maladie, puisqu'il y a souvent un changement assez radical des envies après la maladie.
Alors, quelle est la méthodologie de votre association pour, j'irais, remettre ces femmes ou ces hommes dans le bon chemin?
On a une chronopédagogie tout à fait éprouvée qu'on a écrite à la fois par des experts de l'orientation de carrière, mais également des oncologues, des associations de patients, des assistantes sociales, voilà. Et on a co-écrit ensemble un projet pilote en 2015 qu'on fait évoluer au gré des réflexions et des suggestions des personnes qui suivent nos parcours, puisqu'ils sont toujours associés justement à l'évolution de nos parcours pour répondre au plus près à leurs besoins.
Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour une personne qui adhère à votre association ?
Alors, elle n'a pas besoin d'adhérer. Concrètement, elle va sur la page d'accueil de notre site. Il y a un petit formulaire qu'elle doit remplir si elle a envie d'être recontactée pour un premier entretien qui sera d'ailleurs administré par nos bénévoles de la team Premier Appel. C'est un entretien d'une heure pendant lequel on va faire le point sur la situation de la personne et ses besoins. Ensuite, on va l'orienter soit sur un accompagnement individuel, soit sur un accompagnement en groupe. Les accompagnements que nous proposons sont proposés de façon inconditionnelle et gratuite. On a d'ailleurs 20% de fonctionnaires qu'on accompagne, mais aussi des auto-entrepreneurs, des salariés, des demandeurs d'emploi.
Alors ça s'appuie sur quoi ? Sur des entreprises partenaires ? Parce qu'il faut trouver du travail à un moment donné. Hein.
On a des personnes qui sont salariés et se posent des questions sur leur retour. Donc ceux-ci vont peut-être retourner dans leur entreprise ou en tout cas retourner et négocier un retour en santé, c'est-à-dire une adaptation du poste, du rythme, etc. On a des personnes effectivement qui sont en recherche d'emploi. Donc oui, tout à fait, on travaille sur l'autonomisation de la personne dans sa recherche d'emploi et la mise en relation avec des entreprises et des groupements d'entreprises que nous connaissons.
Quelques exemples, sans les nommer bien sûr, mais de personnes qui ont participé à vos programmes et qui sont aujourd'hui totalement réinsérées, entre guillemets.
Oh, on a des très belles réorientations, notamment, j'aime bien parler des réorientations, mais on a par exemple des avocates qui sont devenues maintenant des collaboratrices de l'économie sociale et solidaire. On a aussi, par exemple, une jeune femme qui était comptable, qui a décidé de s'engager dans des études d'infirmière. Mais on a aussi des gens qui n'ont pas travaillé depuis 6 ans suite à une maladie et qui vont, sur un poste d'abord raisonnable et à temps partiel, reprendre pied dans le monde du travail. Voilà nous, ce qui nous intéresse. Et puis aussi, on ne se focalise pas sur le travail salarié, puisqu'on a des personnes qui ne retravailleront pas pour des raisons de santé. Mais ce qui nous importe, c'est qu'elles puissent effectivement se sentir un citoyen à sa place, et notamment on les engage à s'engager dans des actions de bénévolat pour justement se sentir utile et à sa place.
La maladie, c'est toujours un drame, mais c'est aussi parfois l'occasion de se réorienter, de prendre une nouvelle orientation.
Tout à fait. On ne va pas faire des poncifs, mais il est vrai qu'un certain nombre de personnes nous disent que la maladie leur a sauvé la vie parce qu'effectivement, elles leur font prendre conscience au sel de la vie et à la beauté de la vie. Et donc, elles ont après, elles savourent la vie d'une façon différente. Et effectivement, certaines disent « oui, mon cancer m'a sauvé la vie ».
Alors ça se passe comment en interne ? J'ai entendu parler de team, là. C'est quoi les teams ?
Alors les teams, déjà chaque groupe d'une quinzaine de personnes accompagnées donne un nom à son groupe. Mais également, on a la team dont je vous parlais, premier appel, ce sont souvent des anciens bénéficiaires qui deviennent des bénévoles. On a la team des coachs bénévoles, on a 100 coachs bénévoles aujourd'hui. Voilà, c'est ça les teams.
Comment vous arrivez à mesurer votre impact ?
La mesure d'impact, vous n'avez qu'à leur demander. C'est effectivement, vous voyez là des personnes joyeuses dans la vie qui ont mené des projets et qui sont contentes des projets qu'elles mènent aujourd'hui et qui, pour la plupart, la maladie est un peu derrière et aujourd'hui, c'est un autre jour et elles sont plongées dans des très beaux projets.
Sophie Caruso, fondatrice de l'ANIAC Lasso. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la-niac.org. Sachez aussi que l'ANIAC édite le guide pendant et après un cancer, conseils, accompagnement, témoignages et adresses utiles. On peut le retrouver dans certains services hospitaliers, chez les professionnels de santé et en version actualisée sur le site de l'ANIAC. Lyon perd une figure emblématique de son histoire, Jean Huchard, passionné par l'art du tissage de la soie. Il s'est éteint à l'âge de 104 ans. Cet autodidacte, reconnu comme un expert incontesté de Jacquard, a consacré sa vie à un travail de recherche colossal sur l'histoire de la soierie. Ses publications dans les bulletins municipaux de Lyon ont permis de redécouvrir la vie et l'œuvre de ce célèbre inventeur. Malgré un parcours atypique, Jean Huchard est devenu une référence dans ce domaine, de son enfance à la Croix-Rousse, à son travail à la Poste. Sa rencontre avec les maîtres tisseurs comme Georges Matelon a été le point de départ d'une passion dévorante. Il était considéré comme un véritable trésor vivant. Son ami Jacques Matelon souligne sa ténacité et sa soif d'apprendre, ainsi que sa générosité à partager ses connaissances. Les obsèques de Jean Huchard auront lieu le 8 mars au crématorium de Bron. Rendez-vous en 2026 pour la prochaine Biennale d'art contemporain de Lyon et c'est l'Australienne Catherine Nichols qui a été choisie pour piloter cette 18e édition. Spécialiste de la littérature, elle promet une Biennale ancrée et connectée en phase avec les enjeux de notre époque. Un projet audacieux qui succède à la 17e édition couronnée de succès avec plus de 285 000 visiteurs. La Biennale d'art contemporain de Lyon, c'est donc en 2026, de septembre à mars, une nouvelle occasion de découvrir les talents de la scène artistique contemporaine internationale. En basket, en Eurocoupe féminine, nouvel exploit pour l'ASVEL qui enfonce l'Armada de Rayron. Battue de 5 points à l'aller en Catalogne, les Lyonnaises ont renversé le deuxième du championnat espagnol au Palais des Sports de Gerland hier soir. Les Lyonnaises ont dominé le match retour de bout en bout. Elles se sont imposées au final 72-51. Elles affronteront Ferrol, une autre équipe ibérique, en demi-finale les 6 et 13 mars prochains. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.